Alain Jouffroy, je voulais vous voir et que nous parlions ensemble et surtout vous entendre parler de Lautréamont, d'Isidore Ducasse, des chants de Maldoror, des poésies aussi. D'abord parce que vous avez participé à cette lecture, mais aussi et surtout parce que vous avez écrit un livre que malheureusement on ne trouve plus couramment dans les librairies parce qu'il a été épuisé, qui est L'individualisme révolutionnaire. Et dans ce livre, Lautréamont tient une place et une place importante et peut-être symbolique. Comment est-ce que vous pourriez rapidement et schématiquement exprimer cette idée à partir de Lautréamont et de Chant de Maldoror, cette idée que la révolution poétique et la révolution politique sont d'une même identité, si j'ai bien compris, et si je ne schématise pas trop le fond de ce livre, de la thèse de ce livre, de cette thèse de l'individualisme révolutionnaire.
Non, l'idée du livre, c'est que l'individu joue un rôle révolutionnaire dans le développement de la société. Non seulement à l'égard des autres individus, mais à l'égard de lui-même. Et donc, en opérant un renversement des valeurs, et il l'a opéré notamment deux fois, une fois par les champs, en s'opposant, disons, à un certain ordre moral auquel on est habitué, auquel on continue d'être habitué, hélas, aujourd'hui, et ensuite en s'opposant à lui-même dans la deuxième version de son œuvre qui prend le contre-pied des chants de Maldoror, je veux dire le livre des poésies. Curieux renversement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la société, puisque Lautréamont, né à Montevideo, a vécu son enfance pendant un siège, dans une ville assiégée, et il est mort à Paris pendant un siège.
Il y a en quelque sorte une boucle entre ce point de départ à Montevideo et
oui, c'est curieux,
ce moment de la mort en 1870. Oui. Je crois qu'on peut peut-être préciser que le siège de Montevideo, c'était aussi une longue affaire et une violente affaire. Ce n'était pas simplement un siège, le siège d'une ville, une bataille passagère. C'était
ça a duré des années.
C'était une longue guerre, une guerre civile. Donc il a passé une bonne partie de son enfance dans un climat de violence
c'est cela.
Réelle et visible, et évidente.
Oui, je crois qu'il a associé cela d'une manière inconsciente au chant, et quand il prophétise lui-même sa mort à la dixième strophe du premier chant, il décrit à peu près les conditions réelles de son existence au moment de sa mort dans le dernier hôtel où il a habité, qui curieusement aussi était tenu par le même hôtelier, Monsieur Dupuis, qui était celui qu'il avait hébergé quand il est arrivé à Paris, à une autre adresse. Alors, répétition de l'imprimeur, répétition de l'hôtelier, répétition du schéma du double siège, et on a l'impression, je fais le double carré, d'un enfermement parfait, à l'intérieur duquel l'œuvre a éclaté en quelque sorte comme une bombe destinée à briser cet encerclement. Double bombe, étrange, une bombe amorcée au mal et amorcée au bien, dialectiquement, comme si le mal ne suffisait pas à le libérer, et qu'il avait eu besoin du bien pour rendre son mal plus efficace.
Est-ce que vous considérez que les poésies, le deuxième volet de l'œuvre, est une œuvre terminée, close, qui répond au chant de Maldoror, ou bien est-ce que on pourrait se dire que c'est une œuvre encore rapide, fragmentaire, et que
tout est fragmentaire chez lui, tout est rapide, tout est brouillon. C'est le contraire d'une œuvre achevée. On a relevé, et les ennemis de Lautréamont sont nombreux pour relever comme des pions les fautes de français, les fautes d'orthographe qu'il y a dans les chants. C'est un brouillon, on dit génial, mais en tout cas c'est l'œuvre hâtive, précipitée d'un homme qui a peu de temps à sa disposition, qui sait en quelque sorte, qui pressent qu'il n'a pas, il ne disposera pas du temps nécessaire, comme s'il il en avait la certitude à l'avance.
Et il l'écrit dans les chants, il l'écrit. Vous parliez de l'enfermement de ce destin, de cette destinée extraordinaire et singulière, et vous l'avez analysé dans cette étude qui est dans l'individualisme révolutionnaire. Et là, vous venez d'évoquer son condisciple, ses années d'études. Il semble que très physiquement, l'expérience de l'internat, il l'ait vécu comme un enfermement aussi, et que sa nature et son caractère très libre étaient très révoltés contre ça.
Oui. Et en plus, il est curieusement enfermé dans sa chambre d'hôtel. Bon, il a des rapports avec ces jeunes gens qui vont avoir affaire avec la commune. Il les fréquente, ces gens qui gravitent autour de cette petite revue La Jeunesse. Mais cette revue La Jeunesse, elle est juste là, à côté de son hôtel, dans le passage vers Do. Je veux dire, il est dans un tout petit territoire. On a l'impression que l'itinéraire des Champs de Maldoror recoupe juste les quelques rues qui étaient les rues voisines de son hôtel, où il s'est trouvé quand même quelques hommes avec qui dialoguer, mais il n'est pas allé au-delà. Donc la prouesse qui a consisté à faire publier malgré tout les chants et à essayer de les distribuer a dû représenter pour lui un effort considérable et désespéré auquel dont il ne songeait pas qu'il pourrait avoir le moindre résultat. Je pense qu'il y a chez lui un pessimisme dans l'efficacité qui nous touche et qui renvoie à notre propre impuissance à l'égard de l'idée que chacun de nous peut contribuer à changer l'état des choses ou l'état de la société. Il y a, si vous voulez, l'identification inconsciente qui s'est opérée avec Rimbaud, elle est multipliée par 10 avec l'autre Amont.
On souligne toujours un ton prophétique dans l'écriture de Champs de Maldoror, un souffle prophétique, inspiré, comme on dit. Et vous soulignez quelques points qui peuvent apparaître comme prophétiques par rapport même à la vie et à la mort de l'autre Hermont, comment il annonce certaines choses. Vous soulignez aussi comment il reprend un moment important de l'histoire de France, un moment symbolique de la Révolution, qui est l'assassinat de Le Pelletier de Saint-Fargeau. Comme s'il y avait une sorte de pont comme ça qui, à travers les Champs de Maldoror, se dressait entre la première Révolution, la Révolution française et la Commune.
Oui, ça c'est ce qui est le plus extraordinaire. Et quand vous pensez que le cadavre de Mervyn projeté du haut de la colonne Vendôme, qui était le monument commémoratif à Napoléon, donc qui était destiné à camoufler et à censurer l'un des lieux révolutionnaires par excellence, puisque c'est à cet emplacement même qu'on avait renversé la statue du roi et qu'on avait substitué la statue du roi le cadavre de Le Pelletier de Saint-Fargeau, première victime de la Révolution, qui a été assassiné par un garde du roi, nommé Paris, et que cet homme a été transporté de la place Vendôme dans un cortège suivi par tous les élus de la Convention jusqu'au Panthéon, où il a été enterré, et que la trajectoire de Mervyn obéit exactement au même itinéraire jusqu'au dôme du Panthéon, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas là une clé historique, dissimulé volontairement. Il m'est difficile, à mon avis, de croire qu'un épisode aussi frappant, aussi singulier, comme recoupement d'itinéraires, parce que rien ne peut faire penser qu'un cadavre jeté, un cadavre, donc celui de Le Pelletier de Saint-Fargeau, fictivement, disons, projeté directement, ironiquement, au-dessus des toits de Paris, de la colonne Vendôme, tombe par hasard au lieu même où Le Pelletier de Saint-Fargeau a été enterré, ce serait vraiment un hasard formidable. Il ne faut pas oublier que quelque temps après l'écriture des chants, la colonne Vendôme va précisément être renversée et qu'on va accuser et mettre en prison Courbet de l'avoir fait, d'en avoir été responsable. Et je crois qu'il y a là quand même une série d'événements qui s'emboîtent en quelque sorte, où l'autre Amont joue un rôle de charnière mentale qui fait pivoter en quelque sorte une révolution dans l'autre, comme s'il était lui-même ce pivot historique. Et que son aspiration poétique tournait autour d'un axe historique qui fait changer l'histoire.
Pour en revenir au Panthéon, qui tient dans la géographie parisienne de Lautréamont une place particulièrement importante et terminale, il se trouve qu'à peu près un demi-siècle plus tard, d'autres chants ont été écrits.
Oui, magnétique, cela.
Cela, magnétique, devant le Panthéon,
à l'hôtel des grands hommes. Ça, c'est vous qui ajoutez ça, mais c'est très joli, je n'y ai pas pensé. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Pourquoi est-ce que Breton a choisi d'habiter en face du Panthéon, lieu final des chants? Ça ne peut pas être non plus par hasard.
C'est pas un hasard,
non. De toute façon. C'est certainement pas... En tout cas, à cause de la statue de Jean-Jacques Rousseau, la présence de la statue de Jean-Jacques Rousseau, aux yeux de Breton, n'était pas suffisante, à mon avis.
En tout cas, il y a une rencontre dont on peut penser qu'elle est fortement significative,
oui.
Dans la mesure où Lautréamont a été une des forces vives du surréalisme à travers Breton.
C'est-à-dire que Breton était persuadé, comme il l'était à l'égard des illuminations de Rimbaud, que l'une des explications possibles de l'écriture des chants était l'automatisme lui-même. Alors, est-ce que c'est une forme d'écriture automatique littérale telle que Breton et Soupeau l'ont pratiquée avec les chants magnétiques? Ça, je ne pourrais pas le dire, l'affirmer, mais je pense qu'il y a quelque chose de semblable. En tout cas, il a essayé de rejoindre la vitesse d'écriture des illuminations de Rimbaud et des chants dans certains des passages des chants magnétiques. Ça, c'est évident. Tous les deux le voulaient. Et curieusement, juste à côté du Panthéon.